Bonjour, vous êtes bien installé ? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre en vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, « Réparer les vivants » de Maëlys de Kerangal, un livre coup de poing, comme une déferlante en pleine figure. Ce livre vous prend à la gorge, il vous mettra à terre et vous laissera exsangue. C'est douloureux, tellement fort, tellement puissant. L'écriture de Maëlys de Kerangal est à la fois poétique et chirurgicale. « Réparer les vivants », c'est l'histoire d'une transplantation cardiaque. Tout y est décrit, tous les acteurs y sont décryptés dans leurs moindres gestes, leurs émotions, leurs peurs et leurs angoisses. Le livre tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en 24 heures exactement. C'est un roman de tension et de patience, d'accélération panique et de pause méditative où le cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. Le livre, paru en 2014, a reçu pas moins de 10 prix littéraires, dont celui des étudiants de France Culture, le prix Télérama 2014 ou encore le prix des lecteurs de l'Express. Le roman ensuite a été adapté au cinéma. Cette nuit-là, donc, une camionnette freine sur un parking désert, s'immobilise de travers, les portières avant claquent, tandis que coulisse une ouverture latérale, trois silhouettes surgissent, trois ombres découpées sur l'obscurité et saisies par le froid. Février glacial, rhinite liquide, dormir habillé, des garçons, semble-t-il, qui zippent leur blouson jusqu'au menton, déroulent leur bonnet au ras des cils, glissent sous la laine polaire le haut charnu de leurs oreilles et, soufflant dans leurs mains jointes en cornet, vont s'orienter face à la mer, laquelle n'est encore que du bruit à cette heure, du bruit et du noir. Des garçons, ça se voit maintenant. Ils se sont alignés derrière le muret qui sépare le parking de la plage, piétinent et respirent fort, narines douloureuses à force de tuyauter l'iode et le froid, et ils sondent cette étendue obscure où il n'est nul tempo, hormis le fracas de la vague qui explose, ce vacarme qui force dans l'écroulement final, scrute ce qui gronde avant d'eux, cette clameur dingue où il n'est rien sur quoi poser le regard, rien, hormis peut-être la lisière blanchâtre, mousseuse, milliards d'atomes catapultés les uns contre les autres dans un halo phosphorescent et assommés par l'hiver au sortir du camion. Étourdis par la nuit marine, les trois garçons maintenant se ressaisissent, règlent leur vision, leur écoute, évaluent ce qui les attend, le swell. Jauge la houle à l'oreille, estiment son indice de déferlement, son coefficient de profondeur, et se souviennent que les vagues formées au large progressent toujours plus vite que les bateaux les plus rapides. « C'est bon !» l'un des trois garçons a murmuré d'une voix douce. « On va se faire une bonne session. » Les deux autres ont souri. Après quoi, tous trois ont reculé ensemble, lentement, raclant le sol de leurs semelles et tournant sur eux-mêmes des tigres. Ils ont levé les yeux pour creuser la nuit au fond du bourg, la nuit close encore en arrière des falaises, et alors... Celui qui a parlé a regardé sa montre. Encore un quart d'heure, les mecs. Et ils sont remontés dans le camion, attendre l'aube nautique. Christophe, Alba, Johan Rocher et lui, Simon Limbre. Les alarmes sonnaient quand ils ont repoussé leurs draps et sont sortis du lit pour une session conclue peu avant minuit par échange de textos. Une session à mi-marée, comme on en compte deux ou trois dans l'année. Mer formée, houle régulière, vent faible et pas un chat sur le spot. Un jean, un blouson, ils se sont glissés au dehors sans rien avaler. Pas même un verre de lait, une poignée de céréales, pas même un bout de pain. Se sont postés au bas de leur immeuble, Simon, devant le portail de leur pavillon, Johan, et ont attendu le camion qui lui aussi était ponctuel, Chris. Et eux, qui jamais ne se lèvent avant midi le dimanche, malgré les sommations maternelles, eux dont on dit qu'ils ne savent que penduler chic molle entre le canapé du salon et la chaise de leur chambre, ils piaffaient dans la rue à 6 heures du matin, lassés d'effets et haleine fétide sous le réverbère. Simon Limbre a regardé se désagréger l'air qui expirait par la bouche, les métamorphoses de la fumerole blanche qui s'élevait, compacte, puis se dissolvait dans l'atmosphère jusqu'à disparaître. S'est souvenu qu'enfant, il aimait jouer aux fumeurs, plaçait l'index et le majeur tendus devant ses lèvres, prenait une large inspiration en creusant les joues et soufflait comme un homme. Eux, soit les trois caballeros, soit les big waves hunters, soit Chris, John et Sky, alias jouant non comme des surnoms mais comme des pseudonymes, puisque créés pour se réinventer surfeur planétaire quand on est lycéen d'estuaire, si bien qu'à l'inverse, prononcer leur prénom les rabat illico sur une configuration hostile. La brune glacée, le clapot maigre, les falaises comme des murs et les rues désertées à l'approche du soir. Le reproche parental et la requête solaire, la plainte de la petite amie laissée sur le carreau, celle à laquelle on aura cette fois encore préféré le van, celle qui ne pourra jamais rien contre le surf. Bras qui se reposent, mes jambes qui dirigent, mains accrochées aux rails du surf et torse légèrement relevé, manteau haut, Simon Limbre flotte, il attend. Tout fluctue autour de lui. Des pans entiers de mer et de ciel surgissent et disparaissent dans chaque remous de la surface lente, lourde, ligneuse, une pâte basaltique. L'aube abrasive brûle son visage et sa peau se tend. Ses cils se durcissent comme des fils de vinyle. Les cristallins derrière ses pupilles se givrent comme si oubliés dans le fond d'un freezer et son cœur commence à ralentir, réagissant au froid. Quand soudain, il la voit venir. Il la voit qui s'avance, ferme et homogène. La vague, la promesse, et d'instinct se place pour en trouver l'entrée et s'y infiltrer, s'y glisser comme un bandit se glisse dans un coffre pour en braquer le trésor. Même cagoule, même précision millimétrée du geste. Pour s'insérer dans son envers, dans cette torsion de la matière où le dedans s'éprouve plus vaste et plus profond encore que le dehors. Elle est là, à 30 mètres. Elle approche à vitesse constante et brusquement, concentrant son énergie dans ses avant-bras, Simon s'élance et rame de toutes ses forces afin de prendre la vague de vitesse justement, afin d'être pris dans sa pente. Et maintenant, c'est le take-off, phase ultra rapide où le monde entier se concentre et se précipite. Flash temporel où il faut inhaler fort, couper toute respiration et rassembler son corps en une seule action, lui donner l'impulsion verticale qui le dressera sur la planche, pied bien écarté, le gauche en avant, régulard, jambes fléchies et dos plat, quasiment parallèles au surf, bras ouverts, stabilisant l'ensemble, et cette seconde-là est décidément celle que Simon préfère. Celle qui lui permet de ressaisir en un tout l'éclatement de son existence et de se concilier les éléments, de s'incorporer au vivant. Et une fois debout sur le surf, on estime en cet instant la hauteur crête à creux à plus d'1,50 m, étirer l'espace, allonger le temps, jusqu'au bout de la course, puiser l'énergie de chaque atome de mer, devenir déferlement, devenir vague. Il prend ce premier ride en poussant un cri et pour un laps de temps touche un état de grâce. C'est le vertige horizontal. Et il est au ras du monde et comme procédant de lui agrégé à son flux, l'espace l'envahit, l'écrase tout autant qu'il le libère, sature ses fibres musculaires, ses bronches, oxygène son sang. La vague se déplie dans une temporalité troublée, lente ou rapide, on ne sait pas. Elle suspend chaque seconde, une à une, jusqu'à finir pulvérisée, amas organique sans plus de sens. Et, c'est incroyable, mais après avoir été tabassé par les cailloux dans le bouillon de la faim, Simon Limbre a fait demi-tour pour repartir direct, sans même toucher terre, sans même s'attarder sur les figures fugaces qui se forment dans l'écume quand la mer achoppe sur la terre, surface contre surface. Il est retourné au large, ramant plus fort encore, fonçant vers ce seuil où tout commence, où tout s'ébranle. Il a rejoint ses deux copains qui pousseront bientôt ce même cri dans la descente et le set de vagues qui blinde sur eux depuis l'horizon, rançonnant leur corps, ne leur laisse aucun répit. Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Yanis, notre technicien indispensable. La semaine prochaine, l'incontournable Colm McCann et les saisons de la nuit. Je vous souhaite une belle semaine et de savoureuses lectures sur Esprit Occitanie.